En septembre, en Mayenne, c'est le mois du climat. À cette occasion, Christophe Feuillet, du Bouger en Mayenne, a interviewé le président du conseil départemental, Olivier Richefou. On l'écoute tout de suite et on le retrouve, page 10 du Bouger en Mayenne de ce mois-ci.
Bonjour Olivier Richefou.
Bonjour.
Vous êtes président du conseil départemental de la Mayenne et du service départemental d'incendie et de secours. Ça n'est pas sans lien avec les points que nous allons évoquer. Vous organisez le mois du climat du 1er septembre au 5 octobre. Alors, on préfère tous les records olympiques aux records climatiques. La planète affiche un triste record en 2024, puisque pour la première fois de l'histoire, elle a connu sur une période de 12 mois un réchauffement de plus de 1,5 degré par rapport au climat de l'ère pré-industrielle. C'est une donnée constatée par l'observatoire européen Copernicus. Quels sont aujourd'hui les effets inédits du changement climatique et quels sont les risques futurs si nous continuons à regarder ailleurs pendant que la maison brûle?
Vous savez, au moment où je vous parle, Athènes est menacée par un feu gigantesque. Donc pour ceux qui douteraient encore des effets du réchauffement climatique, il suffit de regarder ce qui se passe en Europe. On a la chance en ce moment que l'été en France ne soit pas trop sec. Les pluies du printemps ont permis sans doute à la végétation d'emmagasiner un peu plus d'eau. Mais qui pourrait douter aujourd'hui des effets du réchauffement climatique terrible sur la vie de nos populations? La Méditerranée n'a jamais été aussi chaude, ce qui annonce sans doute des orages catastrophiques à la rentrée du mois de septembre. Voilà. Donc, et puis, ne parlons pas de notre beau département de la Mayenne qui, on l'a vu à travers ces inondations terribles à Cran, a été victime, voilà, non pas fait heureusement de victimes humaines, mais on fait des dégâts matériels considérables. On voit bien que la récolte de nos agriculteurs et le blé, les moissons ne vont pas être favorables cette année parce que les pluies importantes de cet automne et du printemps ont empêché les semis de se faire dans de bonnes conditions. Donc toute la planète est touchée et c'est la raison pour laquelle ce problème, il faut tous le prendre à bras-le-corps et le département veut y prendre toute sa part.
Alors justement, Olivier Richefou, quand il y a péril en la demeure, on constate souvent que ce sont des mobilisations entre guillemets à petite échelle qui bousculent et font agir les instances internationales. Plutôt que d'attendre des résultats des conférences qui se suivent et malheureusement se ressemblent, vous prenez la problématique à l'envers, vous partez de l'engagement d'un territoire rural en espérant l'essaimer un peu partout en France?
Oui, on est parti du constat au début de notre mandat de dire qu'il y avait cet engagement pris dans les différentes COP successives de faire en sorte que la neutralité carbone dont on connaît l'importance soit effective en 2050. C'est l'engagement qu'a pris la France. 2050, c'est loin. Et on s'est dit, pourquoi est-ce que la Mayenne, qui a cette capacité à se mobiliser, on le voit régulièrement dans de nombreux domaines. Je pense à la crise Covid avec ces masques, ne l'oublions pas, qui ont mobilisé tous les Mayennais pour les distribuer. Quand je vois la ferveur sur la flamme olympique qui a emporté un Mayennais sur six qui est sorti de chez lui pour assister au parcours de la flamme, la Mayenne est capable comme ça de se mobiliser. Et donc on s'est dit, il faut qu'on y soit avant la France, qu'on montre l'exemple. Et on a pris cet engagement collectif d'y être à cette neutralité carbone en 2040. 2040, c'est encore du temps, mais c'est forcément un temps long. Donc la Mayenne prend cet engagement. J'espère que nos successeurs le feront aussi, parce que je ne suis pas certain qu'en 2040, je sois encore président du conseil départemental de la Mayenne. Mais cet effort collectif, il faut qu'on le fasse tous ensemble pour 2040, parce que j'ai une conviction et nous avons une conviction, c'est que les générations futures choisiront aussi leur lieu de vie, leur lieu où ils voudront que la famille, leur famille puisse s'épanouir, eh bien en fonction de la qualité des lieux où ils habiteront. Et si la Mayenne est orientée vers cette neutralité carbone, je suis sûr qu'il y a des talents que ça attirera. Et que c'est une façon aussi de faire jouer l'attractivité de notre territoire. Il n'y a pas que un bateau qui parcourt les océans, il n'y a pas qu'une marque de territoire, il y a aussi des actions concrètes. Et cette neutralité carbone, c'est aussi un élément, j'en suis persuadé, d'attractivité de notre département.
Et donc, à propos de cet objectif, Olivier Richefou, que vous venez de rappeler, hein, c'est neutralité carbone en 2040. Alors, c'est pas demain, mais c'est dans 15 ans quand même. Comment cet objectif, vous l'avez calculé?
On l'a calculé en faisant appel à des experts, hein, bien évidemment, des cabinets qui nous assistent en permanence. Et on a d'abord fait un état des lieux du niveau pour lequel le département était situé aujourd'hui. Et puis on a regardé, pour avoir cette neutralité, quelles étaient une courbe raisonnable. Et cette courbe raisonnable, elle aboutit avec beaucoup d'ambition à 2040. Si on est capable de réussir deux opérations en même temps, il faut à la fois réduire par trois nos émissions de carbone. Donc il faut diviser par trois tout ce qu'on émet en carbone, tout le milieu industriel, tout le milieu agricole, tous les particuliers, tous les ménages. Et il faut en même temps augmenter par 6 la capacité de stockage du carbone en Mayenne. Voilà. Donc diviser par 3 les émissions et augmenter par 6 le stockage. C'est ambitieux et ça ne peut être réalisé que si tout le monde y est autour de la table et si tout le monde mène des actions, du plus petit opérateur au plus gros opérateur, du particulier à Lafarge Holcim, pour citer l'entreprise industrielle en Mayenne qui émet le plus de gaz à effet de serre aujourd'hui. Voilà. Donc c'est tous ensemble que l'on réussira et ça passe notamment par des sensibilisations et par des actions que chacun doit au fur et à mesure mettre en œuvre. C'est un combat de longue date, c'est un peu le même type de combat que les combats de sécurité routière qu'on a été capable de réussir en France. Le port de la ceinture de sécurité, souvenons-nous, vous étiez peut-être pas né, moi si, était un combat de tous les jours. Et on a vu d'ailleurs que c'était par les enfants, souvent, que ces messages passaient. Donc c'est tous ensemble, sur la durée, qu'on doit être sensibilisés sur cet engagement.
Et alors donc parmi les leviers que vous avez partiellement évoqués, on évoque souvent la rénovation des logements pour faire des économies. Alors les classes les moins favorisées, elles font naturellement des économies et ce depuis des décennies. Malgré cela, les factures d'énergie ne cessent de grimper. Est-ce qu'il n'y a pas besoin d'un interventionnisme accru auprès par exemple des fournisseurs d'énergie? Est-ce que finalement l'ouverture à la concurrence, c'était une bonne idée quand on voit le résultat aujourd'hui?
Moi, j'ai lu l'interview il y a quelques jours d'un ancien président d'EDF qui trouve que le prix d'énergie aujourd'hui est un prix où il y a beaucoup de spéculation, où il y a sans doute des marges terribles qui sont faites par beaucoup d'opérateurs et beaucoup d'intermédiaires. Et on a aujourd'hui on est sans doute victime plutôt d'une concurrence saine, parce que la concurrence par principe et saine et qu'elle doit aboutir à baisser les prix, mais l'organisation telle qu'elle est mise en œuvre, en tout cas en Europe, aujourd'hui n'est pas satisfaisante et je sais que notamment les députés européens se penchent sur ce sujet. Il y a trop d'intermédiaires et sans doute des marges considérables qui sont faites. La France est autosuffisante, on le sait, qu'une énergie très décarbonée qu'est le nucléaire et elle est même exportatrice et il n'y a aucune raison en ce qui nous concerne que cette énergie ait autant progressé. Mais on est là sur des phénomènes qui échappent malheureusement à une collectivité comme le département de la Mayenne.
Un autre levier, c'est celui de l'élevage. Alors l'élevage est la source de 68% des émissions nationales de méthane, hein, c'est un chiffre 2021 du ministère de l'Agriculture, et de 12% des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. Comment on sensibilise les agriculteurs aux bonnes pratiques dans un département agricole comme le nôtre?
Eh bien, en travaillant avec eux, et c'est le cas, et moi je remercie très sincèrement la Chambre d'agriculture de la Mayenne qui, dès le début, nous a dit « Banco, on s'associe à votre démarche, et la place de l'élevage, elle est essentielle pour notre département. Le département de la Mayenne n'existe que parce qu'il y a d'élevage. C'est ce qui lui a donné ses caractéristiques fondamentales, c'est ce qui fait sa richesse des paysages aussi. Notre bocage, il n'existe que parce qu'il y a de l'élevage. Si demain il n'y a plus d'élevage et on ne fait que les céréales, vous aurez des paysages tels que la Beauce. Je n'ai pas envie que le département de la Mayenne ressemble à la Beauce. C'est sans doute une très belle région. Mais c'est pas la région que l'on a envie d'avoir en Mayenne. Donc il faut qu'on garde ces trames bocagères, mais ces trames bocagères, elles n'existent. Et elles sont très utiles, voire même indispensables, notamment pour capter le carbone, que si elles ont aussi un rôle économique. Et le rôle économique, c'est l'élevage. Donc il faut poursuivre notre encouragement à l'élevage, mais faire en sorte que les pratiques, et sans doute que la recherche, permettent que cette activité économique soit moins émettrice de gaz à effet de serre. Il y a des recherches importantes qui existent au niveau national et international dans le domaine. Et puis, il y a des pratiques à mettre en œuvre que qu'ont bien compris un très grand nombre d'agriculteurs et qui les mettent aujourd'hui en place. Donc, c'est là aussi un travail de persuasion, un travail de longue haleine, de changement de pratique. Et je sais que nous avons l'ensemble des acteurs agricoles à nos côtés dans le domaine.
Et parmi ces recherches, Olivier Richoux, il y a notamment le développement de la viande cultivée en laboratoire. Est-ce qu'à titre personnel, vous êtes favorable à la viande in vitro ?
Moi, je ne suis pas favorable à la viande in vitro à partir du moment où on doit être en capacité de maintenir une activité économique basée sur l'élevage des animaux, qui à la fois fait vivre quand même, ne l'oublions pas, un très grand nombre de Mayennais, et puis, j'insiste sur ce point, permet de garder une ruralité vivante. Imaginez nos villages sans les agriculteurs. Imaginez nos paysages sans les agriculteurs. Moi, j'ai pas envie de vivre et d'avaler des boulettes chimiques à longueur de temps dans ma vie de demain. J'ai envie de continuer à profiter de plats savoureux issus de l'agriculture locale et notamment de l'élevage.
Le conseil départemental organise donc du 1er septembre au 5 octobre le mois du climat avec des animations variées proposées par les collectivités, des associations et des acteurs économiques engagés. Est-ce qu'il y a des temps forts que vous souhaitiez mettre en avant, Olivier Richoux ?
Ça serait difficile d'en ressortir. Il y a plus d'une centaine d'activités qui auront lieu un peu partout. On a vraiment souhaité, avec tous les acteurs qui ont bâti avec nous cette offre, une grande diversité, vous venez de le dire, dans le type d'action, et aussi une grande diversité dans les lieux. C'est dans un peu plus d'une trentaine, 35, je crois, communes différentes qu'auront lieu ces animations, pour que chacun puisse avoir à proximité une occasion d'entendre ces messages sous des formes diverses. Donc, à la fois des lieux très nombreux, et puis des formes très diverses, et puis ce point d'orgue, en effet, du 6 octobre, et cette journée du climat que l'on souhaite un événement phare dans notre département.
À suivre à l'espace Mayenne. Et vous l'avez rappelé en préambule, il existe encore des climato-sceptiques, alors je ne parle pas des complotistes. Hein. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire pour les convaincre ?
Regardons autour de nous. Regardons les phénomènes qui se produisent dans notre département, comme je l'évoquais au début de mon intervention. Regardons en plein été ce qui se passe en Grèce, pour comprendre qu'il est indispensable que les choses évoluent. Moi, je me réjouis aussi que des grands pays, je pense aux États-Unis, États-Unis avec Joe Biden, ont réussi à mettre en place ce pacte vert qui commence à produire ses effets. Je ne suis pas là pour intervenir sur la politique américaine, mais souhaitons de tout cœur, en tout cas, que le prochain président américain continue la même chose. Et puis, il faut que ces COP continuent à exister pour que les grands responsables de nos États continuent à se réunir, continuent à prendre des engagements, et puis qu'on vérifie ces engagements, parce que c'est notre air, il est commun. Notre planète, on en a une seule, et donc si la France fait seule des efforts, ça ne suffira pas. Si la Mayenne fait seule des efforts, ça ne suffira pas. Donc d'où l'intérêt que ce mouvement soit collectif, chacun doit y prendre sa part, Et en tout cas, la Mayenne est parfaitement prête à y prendre toute sa part.
Avant-dernière question, Olivier Richefou. Sur le site internet de l'aéroport de Laval, on peut lire « Voyager dans un avion aussi simplement qu'en prenant votre voiture, mais en mettant en moyenne 3 fois moins de temps ». Est-ce que l'un des enjeux majeurs pour gagner la guerre contre le réchauffement n'est-il pas de réapprendre justement à prendre son temps ?
Oui, mais je fais partie de ceux qui pensent que ce n'est pas en faisant un retour en arrière qu'on arrivera à sauver notre planète. Je pense qu'il est indispensable de continuer à garder, par exemple, un aéroport à Laval, pour prendre l'exemple que vous citez, parce que c'est un outil économique indispensable et qu'il y a des chefs d'entreprise qui, pour réussir, ont besoin de se déplacer dans la journée quand il s'agit d'aller régler un problème urgent en Europe, chose qu'on ne peut pas faire en prenant un train, par exemple. Donc il faut savoir faire la différence entre des éléments qui nécessiteront encore de prendre l'avion, qui, j'en suis sûr, demain, utilisera de plus en plus des énergies décarbonées. On voit de plus en plus des expérimentations d'avions électriques. Alors, pas encore des avions pour transporter 200 personnes, mais 2-3 personnes, des expérimentations d'avions électriques existent. Vous savez, c'est un peu la même chose que les véhicules. Moi, à titre personnel, depuis 8 ans, je roule en véhicule électrique. 8 ans, hein, donc un temps relativement long. Je suis sûr que quand tout le monde roulera avec des énergies décarbonées, les gens qui sont contre la circulation automobile, et il y en a dans notre pays, dans notre département, n'auront plus la même vision, parce que ça utilisera des énergies décarbonées. Donc il y a des moments où le temps est important et il faut accepter que l'on utilise encore des moyens tels qu'un avion au départ de Laval. Et puis, il y a bien sûr d'autres circonstances où c'est parfaitement inutile et où le train, dont on sait que c'est aujourd'hui le moyen de transport sans doute le plus adapté, est parfaitement possible. Donc, faisons la part des choses et ne stigmatisons pas parce que on va mettre les gens les uns contre les autres et c'est plutôt en les mettant ensemble autour de la table qu'on s'en sortira.
Dernière question hors cadre, Olivier Richefou. Lors du dernier remaniement ministériel, vous disiez attendre que votre téléphone sonne. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui ?
Alors, ça, c'est sur France Inter, le téléphone sonne. Mmh. C'est une belle émission à laquelle j'ai participé d'ailleurs sur le sujet du réchauffement climatique et des pompiers il y a quelques mois. Non, mais vous savez, c'est une forme d'image. Quand on est investi, je suis pas le seul, hein, dans la vie locale et dans la vie en termes de responsabilité, une des façons de servir son pays, c'est aussi d'être ministre. Et donc, forcément, tous les présidents de département, tous les maires des villes importantes, tous les responsables engagés dans les régions, si on leur demande un jour de poursuivre leur engagement pour le faire à un niveau national et non plus simplement à un niveau départemental, ils ont tendance à avoir envie de le faire. Et moi, je fais partie de ceux qui disent que si mon énergie, je peux la mettre au service d'une cause à laquelle je crois et qui peut être utile, non pas seulement pour la Mayenne, mais aussi en France, bien évidemment, j'accepterai. Voilà, c'est le sens de l'engagement qui fait la force de notre pays, cette force militante de nombreux maires, de très nombreux élus qui sont passionnés tous les jours pour la chose publique. Et la chose publique, elle existe aussi au niveau national. Donc forcément, si on vous le demande, et si vous en avez l'opportunité, je connais peu de personnes qui refuseraient.
Le mois du climat en Mayenne, c'est du 1er septembre au 5 octobre. Olivier Richefou, je rappelle que vous êtes président du conseil départemental de la Mayenne et du service départemental d'incendie et de secours. Merci.
Merci à vous.
Le mois du climat, c'est tout septembre sur toute la Mayenne. Nous serons présents le samedi 14 septembre sur le marché de Laval, le jeudi 19 septembre sur le marché de Château-Gontier et le samedi 21 septembre sur le marché de Mayenne pour une opération microclimat. Et sinon, vous pourrez nous écouter le dimanche 6 octobre pour la journée de clôture pour une émission spéciale en direct de l'espace Mayenne de 14h à 16h. Mais nous vous en reparlerons.